Pour nous, on est au mois d'Adar, on est après Pourim, et ce qui se présente à nous maintenant, c'est Pessah. Donc, pour nous, Pessah apparaît après Pourim. Mais quand on y réfléchit un peu, on voit bien que Pourim a lieu le 12e mois de l'année. Donc Pourim, il appartient au cycle annuel qui a commencé Pessah dernier et qui se termine avec Pourim. Et le Pessah qui est devant nous, c'est un Pessah en quelque sorte d'une nouvelle année. Alors, bien sûr, il y a toujours l'ambiguïté qui vient de ce que nous avons deux calendriers qui marchent en même temps. On a ce fameux calendrier qui fait que Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, etc., elle a lieu en automne. Mais c'est un Rosh Hashanah. Si on peut parler comme ça, physiquement, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, ça s'appelle Rosh Hashanah. Et Shana, ça indique la répétition. Shana, c'est le 2 de Shnaim. L'année, c'est un temps qui commence à se répéter. Mais nous avons reçu, au moment de la naissance du clan d'Israël, on a reçu un autre calendrier. Un calendrier qui commence au printemps, mais ce calendrier, il est présenté non pas tellement en mettant l'accent sur Shana, mais il est présenté en mettant l'accent sur le fait que c'est une année composée de mois, de Chodashim. Et on nous dit, voilà, le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Et le mois, en Lashna Kodesh, le mois, il se dit Chodesh. C'est la racine de Chadash. Même racine. Sa racine, si vous voulez, c'est Hadash. Hadash, c'est un renouveau. Bon, le Chodesh, il est parce qu'il y a le renouveau du cycle des phases de la Lune. Mais l'année est considérée ici comme une année formée de, comme je vous ai dit, de mois. Et on nous dit, c'est Rosh Hashanah au sens où c'est le premier de cette suite de 12 mois. Il y a quelque chose de spécifique dans ce calendrier qui est la référence à la notion de Hadash. La notion de Chidush, de Hadash dans la Torah est absolument fondamentale. C'est-à-dire les mitzvot que nous avons reçues, on nous dit dans Kriyat Shema, on nous dit deux fois, on nous dit, tu dois les vivre, ces mitzvot, comme si tu venais de les recevoir, comme si elles étaient chadash pour toi. C'est nouveau. Hadlakat HaNerot de Shabbat, c'est cette semaine, ben, c'était la même chose que la semaine dernière, et ça sera la même chose la semaine prochaine. Non, c'est à toi à vivre l'ensemble des halakhot est le même. D'accord? Les conditions pour que les Nerot soient kasher, pour qu'elles brûlent pendant Shabbat, etc., que ça pose pas de problème, etc., ses conditions sur l'huile, sur les mèches, etc., sont les mêmes de Shabbat en Shabbat. Donc ce n'est pas dans la halakha que le chidouche va se manifester. Mais c'est moi qui vais devoir vivre la mitzvah comme si elle m'était donnée avec cette jeunesse, avec cette entre, ben, cette joie. Qu'on a quand on a quelque chose de complètement nouveau. C'est comme ça qu'on doit vivre les mitzvot. Et donc ce nouveau calendrier, il met l'accent sur ce qui est absolument fondamental, c'est cette notion de chidouche. De Hadash. Alors, comment est-ce qu'on fait du nouveau? En fait, on pourrait dire avec du vieux, quoi. Alors, ce qu'on voit en regardant la situation de Pourim, voit que Pourim, c'est effectivement ce moment où on se réjouit de ce que qu'Hachem nous a permis d'échapper à ah, voilà. Maintenant, c'est au deuxième. Je me réjouis de ce qu'Hachem nous a permis d'échapper à cette solution finale avec zéro mort pour nous cette fois-ci. Une situation absolument incroyable. Et donc, l'idée, c'est que on a affaire à la mort. On a affaire au moment de Pourim, on a affaire à la joie, mais la joie d'avoir échappé à la mort, d'avoir échappé à cette situation que Aman nous avait concoctée, avec ce processus de nafochou, de renversement des choses. C'est-à-dire qu'il avait décidé que il voulait détruire l'Ibn Israël, finalement c'est lui qui a été détruit. Et donc, en fait, avant la naissance du clan Israël qui représente pour Pessah, il y a un processus de traitement de la mort, d'une certaine manière. C'est un moment où on pense à la mort à laquelle on a échappé, bon Hachem, mais on a été confronté à la mort. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est un phénomène absolument constant dans l'histoire. Quand vous prenez le déluge, par exemple, le déluge, bien sûr, c'est une forme de mort, de quasi-mort, puisqu'il y a une famille qui va échapper. Et au sortir du déluge, au sortir de cette mort-là, il y a une naissance, naissance d'une nouvelle situation. Par exemple, la situation nouvelle qui est que l'humanité devient Bnei Noach, C'est-à-dire qu'ils ont, par rapport à Adam Harishon qui avait six mitzvot, avec Noach on a une septième mitzvah, désormais les bnei Noach ont sept mitzvot. On a ajouté Ever Minachai comme mitzvah supplémentaire. Donc c'est une nouvelle ère avec une nouvelle mitzvah. Cette ère-là, elle va durer une dizaine de générations, et au bout de 10 générations, les gens vont vouloir faire cette tour de Babel, et Hachem va disperser. C'est aussi une forme de mort, c'est-à-dire cette unité-là, Hachem l'a cassée, il a fait en sorte que les gens ne se comprennent plus. Donc c'est une forme de mort de nouveau de la société. Et cette forme de mort de la société aurait été d'une certaine manière un échec presque définitif du projet divin, sauf que arrive Abraham à ce moment-là. Et Abraham, il est rescapé en quelque sorte de cette situation, et lui-même, il, même à titre personnel, il sort d'une mort. Il sort de la fournaise. Il était dans la fournaise, et comme vous savez, la fournaise, ça n'est pas a priori un lieu de résidence habituel. Donc, Abraham est sorti de cette fournaise et il va inventer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de. Un rapport avec Hachem. Un rapport avec Hachem, c'est-à-dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va trouver en lui-même la Torah. Il va pratiquer une Torah qu'il a trouvée en lui-même. Et cette forme-là, bien entendu, est une rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, la l'idolâtrie d'avant. Et cette forme-là, elle va disparaître, elle va déboucher sur l'esclavage en Égypte, sur l'exil et l'esclavage en Égypte. À ce moment-là, les Bnei Israël vont se retrouver en Égypte et quelque part, ils vont tout oublier de l'enseignement d'Abraham, quasiment tout. Et c'est une forme de mort, en quelque sorte, de cette civilisation-là. Mais en même temps, les Bnei Israël vont sortir de cet esclavage égyptien. Et ils vont entrer dans une nouvelle ère. Après cette mort qui représentait un esclavage, comme un exil, d'ailleurs, c'est une forme faible de mort. Et donc, après cette mort-là, ils accèdent à une forme de vie qui est la liberté qu'ils reçoivent au sortir de l'Égypte, mais qui est une liberté qui ne prend son sens que avec le Sinaï, qu'avec ce qu'on va recevoir, la Torah reçue au Sinaï. Et à ce moment-là, les Bnei Israël atteignent un niveau incroyable. Ils se retrouvent dans la situation d'Adam Harishon Konemachet. En particulier, ils redeviennent immortels. Et 40 jours après, ils font le veau d'or. Et là, de nouveau, ils redeviennent mortels. Ils meurent, ils sont condamnés à mort. Condamnés à mort par Hachem, qui dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais construire un nouveau peuple avec toi. Et vous savez bien que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, non, je ne suis pas partant. Et si tu ne pardonnes pas au Bnei Israël, tu peux m'effacer de ton livre. Là, paradoxalement, enfin, c'est Hachem qui va céder, si on peut parler comme ça, sur cette question-là, et il va accorder un sursis, dit le Gaon de Vilna, un sursis au Bnei Israël. C'est-à-dire la peine de mort est différée, avec possibilité de la différer définitivement si on ne fait pas de faute. Bon, mais les Bnei Israël vont faire la faute des explorateurs. Et donc la peine de mort va s'appliquer, et on voit bien que c'est une peine de mort pas du tout à cause des explorateurs. La peine de mort, c'est la peine de mort du Hegel, du Vaudor. La preuve, c'est que les femmes ne sont pas punies par cette peine de mort-là, parce qu'elles n'avaient pas participé au Vaudor. Et donc pendant 40 ans, les Bnei Israël, qui avaient plus de 20 ans à la sortie d'Égypte, vont mourir chaque année par une tranche de tous les 40 ans, durant toutes les années, durant 40 ans, au point que quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, c'est une nouvelle période de nouveau, ils seront tous morts, sauf Yoshua et Caleb. Donc même Moshe et Aaron, qui ne meurent pas pour cette raison, mais ils sont plus là non plus. Et donc, on entre dans une nouvelle phase, la phase en Eretz Israël. Un nouveau monde, une nouvelle façon un nouveau rapport avec Hachem, bien sûr. Et même si je saute par toutes sortes d'événements qu'on pourrait aussi analyser, disons, le Beth Amikdash va être construit par Shlomo HaMelech. Et ce Beth Amikdash, donc il va instaurer une nouvelle façon, une centralité de ce Beth Amikdash. Bon, il y aura plus d'hôtel domestique, il y aura plus de haut lieu, il y aura plus de korbanot que à Yerushalayim au Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash va être absolument central dans l'organisation du clan d'Israël. Et puis 400 ans plus tard, le Beth Amikdash va être détruit par Nebuchadnezzar et les Bnei Israël vont être exilés en Babel, c'est-à-dire la forme de la Torah, la forme de vie du clan d'Israël qui existait, va mourir. Les Israël vont se retrouver en galoute. Et le galoute, qui était un galoute babylonien, va devenir un galoute perse. Et durant ce galoute perse, il va y avoir une condamnation à mort par solution finale, d'accord, inventée par un rachat gamour. Amalek, Aman. Et les Bnei Israël sont confrontés à la forme de mort, une forme de mort très, très, très angoissante. Bon, Hachem, ça ne s'est pas concrétisé, mais ils ont été quittes, si on peut parler comme ça, pour l'angoisse. Et puis, il y a eu la forme de mort, la forme de vie, pardon, nouvelle, qui est que les Bnei Israël peuvent revenir en Eretz Israël, reconstruire le Beth Amikdash. Alors c'est complètement nouveau, ils vont revenir en gros avec un nouveau leader qui va quasiment leur donner la Torah, c'est Ezra. Ezra va leur enseigner la Torah qu'ils ne pouvaient plus lire, etc. Il va devoir faire du nettoyage ethnique, ça veut dire qu'il va falloir renvoyer toutes les femmes étrangères. Ceci étant, les Bnei Israël vont vivre autour de nouveau de ce centre qu'est le nouveau Beth Amikdash. Mais à peu près 200 ans après, ben le peuple va mourir quasiment de l'intérieur. Il va se yévaniser, il va devenir grec. La quasi-totalité du clan d'Israël devient grec. C'est pas qu'ils ont des passeports grecs, hein, bien sûr. C'est qu'ils pensent grec, ils servent soi-disant Hachem de façon grecque, ils transforment le Beth Amikdash en un temple grec. Et là, l'Israël est quasiment mort. Sauf qu'il y a une famille qui va résister. C'est les Hashmonaïm, qui vont faire cette longue guerre à laquelle ils vont réussir à purifier le Beth Amikdash. Et on va réinstaller une royauté juive pendant 200 ans. C'était pas complètement réussi dans la mesure où c'est les Kohanim qui sont devenus rois, ce qui évidemment était interdit. Et 200 ans après, eh bien, les Romains sont venus, ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Ils ont exilé les Juifs. Donc c'est une mort. Mais grâce à la Siyata d'Ishmaïa, mais grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a inventé le judaïsme du Galout, en fait. Les Bnei Israël sont entrés dans une nouvelle vie sans Beth Amikdash et a priori sans l'accès à la terre d'Israël non plus. En tout cas pas pour y vivre comme des juifs. Un peuple juif, en fait. Et donc vous voyez, toutes ces époques sont des époques dans lesquelles on peut dire qu'il y a peut-être une certaine progression, c'est-à-dire que la nouvelle vie, elle se construit sur les ruines brûlées, détruites de la précédente, Tout n'est pas rose, mais a priori, il y a une progression. Et c'est quelque chose qui nous permet d'une certaine façon, si on le vit bien, ça nous permet en fait, de nous mettre dans l'ambiance adéquate pour vivre Pessah. Bon, de passer par cette mort. En pensant à cette mort à laquelle on a échappé, mais donc cette angoisse de la mort, bon, qui correspond, si on peut parler comme ça, à la situation d'exil et d'esclavage en Égypte, dont les Bnei Israël sont sortis. Et là aussi, on va maintenant sortir de Pourim avec la référence à la mort, et aller vers Pessah, vers la vie de Pessah. Alors concrètement, ce qui va se passer à Pessah, ce sont deux choses complètement différentes en réalité. D'abord à Pessah, il va y avoir une fête qui s'appelle Chag HaMatzot. La fête des Matzot, qui consiste à manger des Matzot au lieu de manger du pain chametz. C'est-à-dire, on va manger un pain qui est réduit à sa plus simple expression de l'eau et de la farine et du feu. Pendant une semaine, on va manger. Alors, c'est pourquoi exactement on mange? On ne peut pas dire pourquoi on ne veut pas de Hametz, si on, pourquoi il faut. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on ne veut pas du fermenté, parce que on boit du vin, je sais pas, je vous rappelle. Et le vin aussi, ça s'appelle un peu fermenté, quoi. Alors, on va manger de la matzah. Et la deuxième chose qui va caractériser Pessah, c'est une chose qui vient de la manière suivante. Je vous ai dit, les Bnei Israël en Égypte se sont très fortement assimilés. J'ai tellement assimilé que 80% d'entre eux ne voudront pas en sortir. Ils se voient comme des Égyptiens. Donc, voilà, ils restent Égyptiens. C'est un tout petit pourcentage, c'est un cinquième seulement qui va sortir d'Égypte. Donc, les Bnei Israël en Égypte, ils sont assimilés. Ils ont quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Ils avaient une mitzvah, une seule mitzvah. C'était la Mila. Mais ils l'ont supprimée. À un moment donné, ils ont dit, peut-être que ça nous rendra la vie plus facile dans nos relations avec les goïms si on n'a rien qui ne nous distingue d'eux. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et Akadosh Baruch Hu a dit, ah, si vous ne mettez pas la différence, alors moi je vais faire en sorte que ce soit les goïms qui mettent la différence. Et du coup, on a eu cette situation où le Midrash nous dit que les goïms, quand ils voyaient un juif, ils vomissaient, tellement ils étaient dégoûtés. Et les Juifs se sont répandus dans toute l'Égypte, etc., contrairement à ce que Yosef leur avait dit de faire. Et le problème, c'est que la situation d'assimilation était tellement forte. On était déjà, comme on vient de le dire, à 4 cinquièmes de gens perdus pour la Torah, perdus pour le projet, disons, d'Abraham, ou quelqu'un à voir avec, quelque chose qui a à voir avec le projet d'Abraham. Il s'était éloigné d'Hachem. Il y avait un risque que si on laissait la situation dégénérer, ben, il n'y aurait plus de peuple juif, finalement, complètement assimilé à l'Égypte. Alors, heureusement, le fait que les Égyptiens ont réduit les Bnei Israël en esclavage, et qui leur ont fait des conditions difficiles. Heureusement, si vous voulez, les conditions étaient tellement difficiles que les Bnei Israël ont commencé à se plaindre. Et Akadosh Baruch Hu a décidé à un moment donné qu'il allait écouter les plaintes. Et donc il allait sortir les Bnei Israël de cette situation. Et il a décidé de sortir, entre autres parce que ça devenait vital. Il fallait sortir l'Ebné Israël de là, sinon il n'y avait plus personne. Sinon il y avait un problème. Un problème de justice, pratiquement. Comment sortir l'Ebné Israël? Quand ils sont sortis, on va dire que Akadosh Baruch Hu, il a sorti Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire, il a sorti un peuple du sein d'un autre peuple. C'est pas qu'ils étaient aussi en Égypte, mais ils étaient imbriqués avec les goyim. Ils avaient des voisins goyim. C'est pas qu'ils étaient dans des camps où il y avait que des juifs ou dans des ghettos, etc. Non, ils étaient mélangés avec les goyim. Et donc les sortir, c'était compliqué. C'était comme si on enlevait une partie de l'Égypte. Alors pour pouvoir les sortir, il fallait qu'ils aient un mérite, c'est-à-dire quelque chose qui les distingue des Égyptiens. Or, ils n'avaient rien. Il n'y avait aucun, il n'y avait rien. Alors Hachem leur a donné artificiellement, il leur a donné deux mitzvot qui vont permettre. Si les Bnei Israël pratiquent ces deux mitzvot, ça va permettre de les distinguer des Égyptiens. Alors, les deux mitzvot, vous les connaissez, elles s'appellent Korban Pessah et Mila. Elles sont liées puisque on ne pouvait manger le Korban Pessah, les hommes ne pouvaient manger le Korban Pessah que s'ils avaient fait la Mila. C'était pas considéré comme un. Ça, c'est pas considéré. Ils l'ont reçu cette mitzvah, mais je sais pas s'il la pratiquait. Il la pratiquait peut-être pas encore. Enfin, j'ai vu nulle part que c'était considéré comme un mérite. Et d'ailleurs, on voit bien que ces deux mitzvot-là, elles jouent un rôle très important dans la mesure où ce sont les deux seules mitzvot positives sur lesquelles il y a une sanction et même une sanction de karet. Personne, il y a normalement sur une mitzvah positive, si on pratique pas une mitzvah positive, ben c'est tout, il n'y a pas de sanction. T'as raté une occasion, c'est tout. Mais là, si on ne fait pas ces deux mitzvot-là, alors on est passible de karet. Ce qui est assez logique, puisque c'est les deux mitzvot qui ont permis de sortir d'Égypte. Donc, si tu ne fais pas ces deux mitzvot, tu ne sors pas d'Égypte quelque part. Pardon?
Pourquoi le il est sensible à cette sanction de karet dans la mesure où il se fait
Non,
pas.
mais eux, y avait, à eux, ils n'auraient pas la mitzvah de karet. Je dis que ces deux mitzvot pour nous, quand nous allons recevoir la Torah, etc., ces mitzvot-là seront de karet. Mais eux, c'était la condition pour sortir, et ils l'ont tous fait. Et personne n'a imaginé qu'ils pourraient sortir s'ils pratiquaient pas la mitzvah. Éventuellement, c'est possible que Tatan et Aviram, je ne sais pas, peut-être ils avaient fait la Mila, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais bon, eux, ils sont sortis d'une autre manière. Alors, Les Bnei Israël ont reçu cette première mitzvah de faire le Korban Pessah. Alors, ça leur a été donné de la manière suivante. Le premier Nissan leur a été présenté comme étant le Rosh Hashanah, le premier des mois de l'année. Et on leur a dit que le 10 de ce mois, ils devront prendre un agneau. Et ils vont devoir l'attacher au montant de leur lit, enfin, c'est-à-dire montrer qu'ils ont mis cet agneau de côté et susciter le questionnement des Égyptiens, qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau? Il ne faut pas oublier que l'agneau était une idole égyptienne. Alors les Bnei Israël devaient leur dire, ben, on va en faire un corban. Comme je dis toujours, si vous voulez avoir une idée de ce que ça voulait dire, imaginez que aujourd'hui vous fassiez la même chose en Inde avec une vache sacrée. Je ne pense pas que vous finiriez de parler de votre vache sacrée, quoi. Bon, tout et tout de suite. Par conséquent, il y avait là, dans cette démarche, une manifestation de distance par rapport aux idoles, à l'idole égyptienne. Et donc, ils vont garder cet agneau pendant 4 jours. Et le 14, on va procéder à la fabrication de ce Korban Pessah. Alors, l'idée, c'est que cet agneau, là, qu'ils allaient prendre, ils allaient devoir le manger, mais comme tous les corbanotes, quand on a un corban à manger, il faut le manger entièrement, sinon il devient notard, c'est un peu problématique. Donc, normalement, il faudrait le manger complètement, et par conséquent, les Bnei Israël reçoivent l'ordre de se grouper pour acheter ensemble un agneau qu'ils vont manger ensemble. Le Korban Pessah, il va être mangé par la suite. Eux, ils vont pas faire le Korban Pessah tel que les Bnei Israël l'ont fait par la suite, puisqu'ils n'avaient pas de Mizbéach, etc. Mais il y a une façon de le manger, le Korban Pessah, qui consiste à ne pas le manger comme la nourriture de la soirée, mais de le manger quasiment en dessert, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, on va manger un kézaït, la grosseur d'une olive, de ce corban, de cette viande, à la fin du repas, quand on est complètement rassasié, mais bon, on a juste la possibilité de manger cette quantité-là. Et si vous voulez une idée, si on considère que la grosseur d'une olive de cette viande, ça pèse 30 grammes, et que vous avez acheté un agneau, vous avez acheté un agneau qui vous laissera 9 kilos de viande, il faudra 300 personnes pour manger cet agneau. Donc avec les hommes, des femmes, tout le monde va en manger. Mais bon, il faudra faire un groupe de 300 personnes. Si c'est dans ces conditions-là, c'est juste. Et donc, les Bnei Israël vont faire ce. Alors, ça va s'appeler un corban, mais il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de misbéach, donc on peut pas. Ils n'ont pas pu en faire un véritable autel. Alors, comme vous savez, dans un corban, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui est le travail qu'on fait avec le sang du corban, et il y a une partie qu'on fait avec la viande du corban. Donc on fait la shrita et on recueille le sang de la coupure au niveau du cou. Et ce sang-là, on va l'amener auprès du Mizbeach, auprès de l'autel, et on va asperger l'autel avec ce sang. Et c'est ça qui, dans un korban standard, va apporter ce qu'on appelle la kapara, va faire que le korban aura servi à effacer la trace de la faute. Une fois qu'on a fait ça, alors on va dépecer l'animal et on va prendre la viande. Et normalement, on va mettre sur le misbéar un peu des entrailles de corban qu'on va brûler sur le misbéar et le reste de la viande va être mangé. Alors selon, des fois c'est les Kohanim qui mangeront et des fois c'est les propriétaires du Korban qui mangeront la viande. Dans le Korban Pessah, qu'ils ont fait à ce moment-là, le travail du sang, ils l'ont pas aspergé sur un misbéach, vous savez bien ce qu'ils en ont fait, comment on dit, peint avec le sang. Ils ont peint les poteaux et les linteaux de la maison, de la porte de la maison. C'était l'équivalent de la Zrikat Adam de l'asperger le sang contre le misbéach. Et ensuite, ils devaient le manger. Alors, le manger, c'était prévu que il faut le manger grillé, complètement grillé, pas cuit du tout, mais complètement grillé. Et ils avaient la mitzvah de le manger en même temps que de la matzah et aussi des herbes amères, enfin de l'herbe, quoi, enfin de la salade. Ils devaient manger ça, eux, ils devaient le manger au moment où ils sortaient d'Égypte. C'est-à-dire, comme on dit, ils étaient chaussés, ils avaient le bâton pour marcher, etc., le sac à dos, tout était là, était en voie de partir juste à la dernière chose qu'ils ont faite, c'est ça. Donc ils ont fait la Mila et ils ont fait le Corban qui a permis de leur donner des mérites et Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, c'est une forme de naissance. C'est la naissance de la nouvelle ère dans laquelle va être le peuple juif, en fait. Ayant fait ça, ils vont partir. Et en chemin, ils vont se retrouver à la hauteur de la mer. Et les Égyptiens vont comprendre qu'ils étaient définitivement partis. Ils vont les poursuivre. Et les Égyptiens vont les rattraper parce que les Bnei Israël étaient coincés devant eux. Il y avait la mer. Et de part et d'autre, il y avait le désert, les animaux sauvages, etc. Et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Alors il y a eu ce miracle, donc la mer a été fendue à partir du moment où les Bnei Israël ont pénétré dans la mer, qu'ils ont eu, les premiers ont eu de l'eau jusqu'au nez, quoi, quelque part. Avant de se noyer, la mer s'est fendue par le geste de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la façon historique, si on peut parler comme ça, ce qui s'est passé à Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on mange des matzot? Alors, moi j'ai l'habitude de dire que les matzot, si vous voulez, c'est l'impensé de Pessah. Tout le monde sait que les Bnei Israël, on dit, ils n'ont pas eu le temps de faire du pain avant de partir. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi ils n'ont pas eu le temps. Ils savaient longtemps à l'avance qu'ils allaient partir. Pourquoi ils n'ont pas préparé le pain? Ce que je pense, c'est que ils n'ont pas préparé le pain pour la bonne raison que quand on leur a dit vous allez sortir d'Égypte, ça ne voulait strictement rien dire. Bon, c'était impensable. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est essentiellement la vallée du Nil. Et de côté, c'est le désert, c'est la mort, quoi. Où est-ce que tu vas aller? Donc, même si on leur a dit, même s'ils ont dit oui, mais bon, ça voulait rien dire. Et donc, jusqu'à la dernière minute, ils n'ont rien préparé. Et la dernière minute, c'est une espèce de réflexe. Quand ils en partaient, bon, ils ont pris un peu de farine, un peu d'eau et ils ont fait une pâte, ils l'ont jetée dans le feu et voilà. Et donc, nous, on mange des matzot pour cette raison-là. C'est pour ça que je dis que les matzot, elles sont l'impensé, parce que c'était impensable, donc elles sont l'impensé de la sortie d'Égypte. Peut-être que c'est une règle générale, n'est-ce pas, qui est que quand on passe d'une ère, d'une époque à l'autre, eh bien, on passe par un impensable. Quand on est dans un monde, on ne peut pas penser l'autre monde. De même que nous ne pouvons pas penser au Olam Haba. Ça n'a pas de sens. Si vraiment c'est un autre monde. Chaque fois que c'est un autre monde, bon, on ne peut pas le penser. Alors, la fête de Pessah est appelée Pessah, c'est un abus de langage, parce que, en réalité, son vrai nom, c'est Chag HaMatzot. Parce que Pessah, le mot Pessah, comme vous savez, il vient de ce que HaKadosh Baruch Hu a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël, et il n'a pas tué les premiers-nés des Bnei Israël, alors qu'il tuait tous les premiers-nés des Égyptiens. Et c'est le Corban qui a été prescrit, qui s'appelle Corban Pessah. Et donc le mot Pessah, il est adéquat pour la soirée, première soirée, éventuellement, disons, jusqu'au premier jour, mais par la suite, il n'y a absolument aucune raison d'appeler ça Pessah, ça n'a plus rien à voir avec Pessah. Alors, par exemple, je vous ai dit qu'ils avaient reçu la mitzvah, ils ont reçu l'ordre de manger le Korban Pessah avec des matzot. Alors, c'est quoi les matzot? Nous, on mange des matzot parce qu'ils n'ont pas préparé pour sortir. Mais eux, ils mangeaient déjà des matzot en Égypte. Certains disent qu'en vérité, les matzot, c'était ça le pain que les Égyptiens leur donnaient à manger en permanence. Et d'une certaine manière, les matzot, c'est ce qu'ils ont toujours mangé en Égypte. C'est-à-dire que quand ils ont été libérés, et quand ils ont vraiment vu qu'il se passait quelque chose, ils auraient bien voulu faire un autre pain que le pain d'esclavage. Mais c'est le pain qui est sorti, c'est le pain qu'on leur donnait. On leur donnait toujours, on sait très bien que les matzot, ça tient pas du tout au corps. D'abord, c'est plus difficile à digérer, parce que quand vous fabriquez du pain, je crois le processus de fabrication du pain, il va alléger le travail qu'il va falloir faire pour la digestion. Il fait une partie du travail déjà avec la fermentation, si je ne me trompe pas. Et donc, les Bnei Israël vont manger ces matzot pendant 7 jours. Et on mangera ça et en même temps, on n'aura pas le droit d'avoir chez soi du pain ou de toute chose qui est une pâte levée, quoi, quelque part. C'est-à-dire, on va manger un pain qui est le pain du pauvre et qui est un pain pauvre. Il est pauvre et pain du pauvre. Il est pauvre parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il n'y a que le strict minimum. D'accord, c'est un pain dans lequel il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien de ce qu'on met normalement dans le pain. Alors c'est vrai que si c'est comme ça, alors on va manger pendant 7 jours le pain que on a mangé quand on était esclave. Pour des gens libérés, c'est pas l'idéal, quoi. Donc la question de savoir pourquoi nous on mange des matzot en 10 ans et la réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter. Ça veut dire, pourquoi est-ce que nous, on continue de manger des matzot alors qu'on devrait manger du pain? Le signe de le signe de la libération, c'est de manger du hametz. Le hametz, on va pouvoir en manger dès que Pessah sera terminé. Mais dans toutes les offrandes végétales qu'on va fabriquer dans le Beth Amikdash, dans les korbanot, dans les menachot, etc., on n'aura pas le droit de faire du hametz. Il n'y aura de hametz que le jour de Shavuot. Les deux pains qu'on amènera dans le korban de Shavuot, c'est des pains qui sont chametz, parce que le jour où on donne la Torah, alors la Torah, elle va nous permettre de travailler contre le Yetzer Hara. Le chametz représente le Yetzer Hara, c'est l'élément qui fait gonfler, etc. C'est quand même un élément qui donne de la vie. De certaine manière, la matzah, elle n'a pas l'air tellement vivante, pas autant que le pain. Alors, il y aura du hametz dans le korban qu'on amènera à Shavuot. Il y a aussi du hametz dans un korban qui s'appelle korban Toda, dans lequel il y a des chanot. Il y aura du hametz aussi. Mais en général, il n'y a jamais de hametz au Beth Amikdash. Il y a à Pessah, je parle du soir du Seder, une mitzvah toute particulière qui est de raconter la sortie d'Égypte. Alors, celui qui est en charge de le raconter, ben, c'est le père, et il doit le raconter à son enfant. Son enfant, son petit enfant. En d'autres termes, il y a un problème de transmission d'un certain récit. La Haggadah, c'est un récit qu'on transmet. On transmet d'une génération à l'autre. C'est un récit, mais qui n'est pas formulé comme un récit simplement où il y a quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui écoute. C'est formulé, c'est construit comme un dialogue. C'est-à-dire, on attend, on va susciter les questions des enfants, les questions de la génération qui reçoit, on veut lui faire poser des questions à ce sujet-là. Donc, on va faire toutes sortes de choses qui sortent de l'ordinaire. On va retirer les plats, les ramener, etc. On va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour que l'enfant pose des questions, pourquoi vous faites ça, etc., et qu'on puisse lui raconter en réponse à ces questions. On veut que ce soit un système de questions-réponses. C'est ça, l'idée, c'est que on ne veut pas que la transmission soit simplement une histoire qu'on raconte à un enfant qui est toutouille, qui va écouter, mais c'est tout. On veut pas que le récepteur soit passif. On veut qu'il soit actif. Donc on va faire en sorte qu'il pose des questions. On va le récompenser, le cas échéant, s'il pose des questions, même si elles ne sont pas obligatoirement toujours les meilleures, mais donc ça va être fondamental, pas parce que dans la Torah, il y a quelque chose d'assez étrange. C'est marqué que à un moment donné, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, bon, au milieu des Makot, il lui a dit, bon, maintenant, Paro, il en a pris tellement. Ça lui a fait tellement mal qu'il va céder. Il va libérer les Bnei Israël. Mais moi, je ne veux pas qu'il les libère maintenant, parce que j'ai pas terminé la démonstration de ma puissance en Égypte. Hachem, comme vous savez, il a voulu impérativement que les Bnei Israël, que les Égyptiens d'abord reconnaissent la toute puissance d'Hachem sur terre, sur mer et dans les airs. Et puis il l'a dit en plus à Moshe Rabbeinu, donc je le fais pour ça, mais je le fais aussi le Mahan afin que vous racontiez à vos enfants ce que j'ai fait en Égypte, comme je me suis joué de l'Égypte, en fait. Donc, Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, il n'a pas demandé qu'on raconte ce qu'il a fait, mais il l'a fait pour qu'on raconte. Alors, c'est pas comme quelqu'un qui raconte sa guerre. Il n'a pas fait la guerre pour le raconter, mais il a fait une guerre et il y a à raconter, alors il raconte. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout qu'Hachem a fait quelque chose et qu'il veut qu'on le raconte. Il ne l'a fait que pour, enfin, pas que pour, mais il l'a fait pour qu'on le raconte. Donc on voit ici l'importance du récit. Ça veut dire qu'on va construire un enfant avec ce récit de la toute-puissance d'Hachem manifestée en Égypte à la naissance du clan Israël. Alors, je répète, ce qui est fondamental, c'est que nous disons que nous racontons la sortie d'Égypte, mais la sortie elle-même, on ne la raconte pas. On raconte ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, mais quand on parle de ce qu'il y avait au moment de la sortie, tout ce qu'on dit, c'est le Halyédé Malach, Saraf, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas rabattre sur quelque chose de connu ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, en vérité, il se passe à chaque fois qu'on sort d'une époque pour entrer dans une autre, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas vraiment raconter. On ne peut pas dire pourquoi, plus exactement comment l'arche de Noé a survécu, avec ce qu'on raconte que c'était ce qui s'est passé. Normalement, l'arche, elle aurait dû être noyée depuis longtemps. On ne peut pas raconter la sortie d'Égypte, justement. Bon, parce que ce que nous en disons, c'est que la sortie, c'est Hachem qui l'a fait. Ça veut dire, ça ne fait pas partie des choses faisables ni même racontables dans ce monde-ci. Il a fallu entrer dans une espèce de no man's land entre la mort et la nouvelle vie. On est entré dans un autre monde. Un monde où, curieusement, où on n'est qu'avec Hachem. C'est Hachem qui agit à chaque fois. On ne peut pas comprendre. On peut pas. C'est pratiquement impensable. On ne comprend pas comment Abraham a pu sortir de la fournaise. On ne comprend pas comment les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. On ne comprend pas comment. Par exemple, comment est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkaï a pu sortir effectivement de Yerushalayim? Vous savez que à cette époque, il y avait des partis en Israël, il y avait un parti qu'on appelle les Zélotes. Ce sont eux qui ont obligé les Bnei Israël à faire la guerre. Normalement, les Chachamim, ils n'auraient pas voulu qu'on fasse la guerre contre les Romains. On ne voulait pas, il fallait, d'accord, il fallait accepter qu'ils dominaient, et bon, il faut payer un tribut, on paye le tribut. Mais eux, ils voulaient absolument faire la guerre. Et pour obliger les gens à faire la guerre, ils ont brûlé toutes les réserves de blé, etc., qu'il y avait à Yerushalayim. Yerushalayim aurait pu tenir un siège très très long. Mais eux, ils ont tout brûlé. Et quand Rabbi Yochanan s'est fait, personne pouvait sortir, il laissait personne sortir. Mais comme on n'enterre pas à Yerushalayim, les morts, on les laissait sortir. Mais normalement, quand quelqu'un sortait, pour être bien sûr qu'il est mort, eh ben, il commençait par lui planter une lance dans le corps, le cadavre, en fait. Et donc, Rabban Yochanan Zakkaï, il s'est fait passer pour mort. Il n'avait aucune chance. Normalement, ils auraient dû le tuer, quoi. Et bon, il y a une Siata d'Ishmaïa, on leur a raconté, non, vous pouvez pas, c'est un gadol b'Israël, on peut pas lui abîmer son corps, etc. Ça a marché. Pourquoi ça a marché? Siata d'Ishmaïa fait que ça a marché. Et ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris une décision qui, par la suite, ne fera pas du tout l'unanimité. Le grand Rabbi Akiva, le plus grand maître de la Torah chez Baalpé, il a dit, au sujet de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, Mi yigale afar me'enecha, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et tu n'as pas vu, vous savez ce qui, vous vous souvenez probablement de ce qui se passe. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, quand il sort de, il arrive à sortir de Yerushalayim, et il voit Titus, et il le salue comme un empereur. Alors le goy lui dit, t'es deux fois Hayav Mita. Deux fois passible de mort. Une fois parce que tu te fiches de moi, et deuxièmement, parce que c'est une insulte à l'empereur que tu me traites, moi, d'empereur. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, non. C'est écrit dans le Passouk que celui qui va conquérir, qui va détruire le Beth Amikdash, qui va conquérir, celui-là, c'est un empereur. Et donc, du coup, juste à ce moment-là, ils sont venus, on lui a annoncé que le Sénat l'avait choisi comme empereur. Alors il lui a dit, puisque tu m'as apporté cette bonne nouvelle, tu peux choisir trois choses. Alors il a choisi les choses qui, aux yeux d'un Romain, étaient n'importe quoi. Lui, il pensait qu'il allait demander à devenir citoyen romain, quoi. Quelque part, c'était pas le souci premier de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais ce qu'il a demandé, qui va être essentiel par la suite, c'est qu'il a demandé qu'on puisse installer, disons, les restes de la yeshiva à Yavne. Sanhedrin, quoi, à Yavne. Ça, il lui a donné. Mais Rabbi Akiva, il dit, mais tu aurais dû demander qu'il lève le siège. Puisqu'il te, il, tu pouvais demander ce que tu voulais. Et Rabbi Yochanan n'a pas choisi, il a certainement envisagé de demander ça, mais il s'est probablement dit, bon, c'est vrai, je ne peux pas mettre à la place, mais si je devais dire quelque chose, je dirais que Rabbi Yochanan, il a pensé que les zélotes en question, si on leur donne la possibilité de lever le siège, ils vont de nouveau se révolter contre les Romains, et cette fois-ci, les Romains vont venir et on n'aura rien du tout. Et donc, effectivement, il a pris Yavne. Bien sûr qu'il aurait préféré qu'il lève le siège. Mais il a pris Yavne parce que il a compris qu'avec ce petit noyau-là, il allait reconstruire toute la structure du clan Israël. Si on est là aujourd'hui, c'est la construction de Rabban Yochanan Zakkai. Et donc là, on ne comprend pas effectivement comment Hachem a fait en sorte qu'il soit pas tué, quoi. Et tout, à chaque fois, il y a une espèce de passage par cette espèce de no man's land. C'est no man, mais en fait, on va dans un autre monde où peut se passer ce qui doit se passer dans cet autre monde, ça se passe. Et donc, on n'a aucune explication de ce qui se passe là-bas. Voilà, il y a la mort de l'ancien et le commencement d'un nouveau. Entre les deux, si vous voulez, cette idée que il y ait la mort comme condition de la vie dans le monde physique, les cellules aussi, elles ont un processus intégré de suicide, en fait. Les cellules meurent pour laisser la place à d'autres cellules. On ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas ça. Donc cette idée-là que la vie est la condition de la vie, c'est la mort de quelque chose, pas simplement qu'on ne le pratique plus, mais vraiment la mort, ça existe aussi dans, mais c'est pas la même chose, bien sûr. Mais des processus de mort, si vous voulez, il y en a toujours dans la vie. Vous parlez de choses que vous savez mieux que moi, mais a priori, une mère, quand elle porte un enfant, elle pense que cet enfant, il sera ceci, il sera là, il sera ça, etc. Toutes sortes de choses qui sont souvent contradictoires. Mais quand la naissance a lieu, c'est une seule chose qui se réalise. Et donc, au moment de la naissance, il y a la mort de tous les autres possibles auxquels qu'on, avec lesquels on a vécu pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est obligatoirement comme ça que pensent toutes les femmes. Et, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on raconte. Pardon? Oui, peut-être aussi, oui. Oui, c'est sûr. Et donc, quelque part, ce processus de la mort de certaines choses qui est nécessaire pour qu'il y ait de la vie, quoi. Et dans la vie, on fait les choix qu'on fait. On fait des sortes de choix, donc on élimine, on tue d'autres choix possibles. Souvent, quand vous faites un choix, ben, évidemment que quand on choisit un conjoint, ben on choisit un et a priori, ben on élimine les autres. En tout cas, on les élimine des gens auxquels on a pensé que peut-être ça pourrait être celui-là ou celui-là. Non, finalement, c'est celui-là. Donc ce système-là, il est à l'œuvre partout dans le monde, visiblement. Alors, où on mange normalement le Korban Pessah, il y a toute cette mise en scène. Par exemple, on va boire 4 coupes de vin. Les Chachamim, ils ont instauré qu'on boive 4 coupes de vin dans la soirée de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 verbes qui ont été utilisés dans les versets qui parlent de cette sortie d'Égypte. Où Hachem dit, voilà, je vais vous libérer, je vais vous, etc. Je vais vous, il y a 4 expressions. Français, ça me compliquait. Et donc, en souvenir de ces 4 expressions, on boit 4 coupes de vin, à 4 moments bien précis dans le récit. En fait, il y a surtout 2 coupes supplémentaires, dans la mesure où la première coupe, c'est le kiddush. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les Shabbats et tous les Yom Tov. Donc, c'est pas spécifique à Pessah. C'est juste que ce kiddush, il a 2 casquettes. Il a à la fois kiddush et à la fois première des 4 coupes. Et le troisième, c'est Birkat Hamazon. Et souvent, le Birkat Hamazon, il se fait avec un verre de vin. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les situations. Il n'y en a que 2 qui sont spécifiques de Pessah pour arriver à 4. C'est une des choses. Puis ensuite, on va manger, la mitzvah va être de manger de la matzah. D'accord? Ça veut dire que dans la Torah, on nous dit que si tu veux manger du pain pendant ces 7 jours, tu dois manger de la matzah. Tu ne peux pas manger du pain chametz. Mais tu n'as pas l'obligation d'en manger. Si tu veux ne pas manger de pain, ben tu ne manges pas de pain. On va manger une certaine, comme toujours, quand il y a une mitzvah de faire une chose, normalement, C'est toujours quantifié. Là, en l'occurrence, il faut quantifier la quantité de matzah qu'il faut manger ce soir-là. Alors, on va manger un morceau de matzah le soir. On va manger aussi du maror. Manger ces fameuses herbes amères que les Bnei Israël ont mangées avec le Korban Pessah. Et qu'on aurait mangé aussi si on avait le Korban Pessah en même temps. Aujourd'hui, nous, on mange séparément la matzah, séparément le maror, et puis après, pour faire comme tout ce qu'on peut d'aussi semblable que ce que faisaient nos ancêtres quand ils mangeaient le Korban Pessah, quand ils mangeaient le Korban Pessah, ils mangeaient. Bon, alors, ça a été copié par McDo, mais. Il mangeait un sandwich avec de la matzah, de la viande, du korban pessah, et de la chassa, du maror. Il mangeait ça ensemble. Alors nous aussi, on fait comme ça. Et non, sauf que nous, on n'a pas de. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de viande dans le sandwich. D'accord? Il est végétarien, c'est toujours. Voilà, et donc, on mange ça en souvenir de quand on mangeait de ceux qui mangeaient tous ensemble, parce que il y a ceux qui pensaient qu'il fallait manger chaque chose séparément, d'autres qui le mangeaient al matzot umrorim yochlu, c'est-à-dire on mangeait avec al matzot, avec des matzot, et des matzot à côté. Est-ce que veut dire le mot al? Al, c'est des fois ça veut dire aliado, à côté de, des fois ça veut dire sur, ça dépend. Et puis, normalement, le Korban Pessah, on doit le manger effectivement à la fin du repas. On mange un kezaït de cette viande du Korban Pessah. Le reste de la soirée, on a mangé une autre viande, une viande qu'on a préparée. Aussi éventuellement le 14, d'accord, mais qu'on pouvait avoir à ce moment-là cuire comme on voulait. On n'était pas obligé. Le Korban Pessah, on était obligé de le griller complètement. Complètement grillé, c'est-à-dire absolument aucune partie de ce Korban n'était cuite. Et pour être sûr que ça ne cuise pas, on n'utilisait pas des broches en métal. Parce que sur une broche en métal, la partie de la viande qui est au contact de la broche cuit, il ne grille pas. Elle cuit par la chaleur de la broche. Donc ça, c'était pas cachère. On voulait, pour être sûr que c'était grillé, on prenait, je crois, une broche en bois de grenadier, je crois. Et ça, résiste au feu, et donc on pouvait comme ça griller complètement la partie en contact avec la broche aussi. Elle grillait. Comme on n'a pas de corban, alors on a pris l'habitude de remplacer symboliquement le morceau de corban pessar par un morceau de matzah. Mais on mange pas ça comme matzah, on le mange comme représentant du Korban Pessah. Alors, il y a quelque chose qui est bien connu, qui est que il y a un peu de paradoxe. Au début du Seder, vous vous souvenez, on va soulever la matzah, on va dire, Ah, l'achma ania, ce pain-là, c'est le pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Là, on dit clairement qu'ils mangeaient des matzots. Mais ce pain-là, au début du repas, il est présenté comme le pain de misère, le pain d'esclavage. Et quand on va le manger, la mitzvah de matzah, on va le présenter comme le pain de la libération. C'est la même matzah. Mamache la même, elle était cette même matzah. Qu'est-ce qui lui arrivait? Au début du repas, elle était la matzah de la de, L'esclavage, et tout à coup, une heure plus tard, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, je ne sais pas combien de temps vous mettez jusqu'à ce qu'on peut manger. D'accord? C'est tout à coup, quelques heures plus tard, c'est devenu le pain de la liberté. Alors, je me suis raconté que, en vérité, quand on raconte la Haggadah, on doit raconter la Haggadah à matzot découverte. Les matzot doivent être découvertes. On va juste les couvrir quand on va faire la bracha sur le vin. D'accord? Le deuxième kos. Et le premier aussi, bien sûr. Mais comme Shabbat, quoi, on couvre le pain. On va le couvrir pour pas que, normalement, on devrait faire la bracha d'abord sur le pain avant de le faire sur le vin, donc on couvre le pain pour que on puisse faire la bracha sur le vin. Mais autrement, ça doit se faire à matzot découverte. Alors j'ai pensé que ce qui va permettre à la matza de se transformer et de passer du stade de la matza qui représente l'esclavage à la matza qui représente la liberté, c'est le bombardement subi par la matza lors du récit. Le récit a bombardé la matza et a fait changer la matza. Elle a été changée par ce bombardement, parce que le récit est justement le récit qui nous explique comment on est passé de la avdout à la chérout, comment on a passé de l'esclavage à la liberté. Et donc la matzah, elle a fait le même trajet grâce au fait que je l'ai bombardé avec mon récit. Et par contre, le petit morceau de matzah qu'on va manger à la place du Korban Pessah, on appelle Afikoman, ce morceau-là, il n'a pas été bombardé. Parce que vous vous souvenez, au début du Seder, on prend une matzah, on la partage en deux, et on en met une partie de côté, qui va être la matzah qu'on va manger à la fin du repas. Et donc celle-là, elle était dans la serviette dans laquelle on l'a mise, donc elle n'a pas été bombardée, celle-là. Pourquoi? Parce que c'est pas de la matzah. Elle représente le Korban Pessah, donc on n'a pas besoin du tout. Au contraire, on veut juste montrer que on la bombarde pas. Voilà. Désolé, on a un peu dépassé. On parlera de Pessah la prochaine fois.
Merci, Rab.
Hein? Encore, on parlera encore de Pessah la prochaine fois.
Merci beaucoup, Rab Ronstein.
Je sais pas.
Télim? Télim, Rab Ronstein?
Oui, vous pouvez y aller.
Oui. Le chef de cet alien de Metzel Salai Islonan. Omar Ladonoï Marsim Isulati Yvla Yiftarbo. Kiwa Tsilecha Mi Parkiakush Medever Avos.